Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. En préambule, je voudrais vous lire ces quelques mots de Jean-Pierre Siméon, que nous avons eu souvent à ce micro, qui dirige la collection poésie des éditions Gallimard, qui vient souvent à Toulouse, qui est membre de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, qui est maître SGE de cette académie, et qui dit au sujet de la poésie, « Faut-il le répéter sans cesse ? La poésie n'est pas un ornement, un élégant passe-temps, une charmante expression du cœur. Depuis toujours, sous toutes ses formes, elle est l'inlassable questionnement de la destinée humaine, une pensée aiguë du destin individuel et collectif, une révolte de la conscience contre tout ce qui porte atteinte à la vie. Bref, l'expression d'une conscience à vif qui, simultanément, célèbre la beauté du monde et accuse en l'homme l'oubli qu'il en fait. Orphée, le premier des poètes, n'est-il pas celui qui marie son chant à celui du vent et des rivières et converse avec les arbres? N'est-ce pas Ronsard qui écrit « Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu gestes à bas. Ce sont, dit-il, nos pères nourriciers. » Et je pourrais citer tant d'autres poètes, du chinois Wang Wei à l'américain Whitman, du persan Rumi à l'écossais Kenneth White, par exemple, qui n'ont de cesse de nous rappeler qui n'est qu'une manière juste d'habiter le monde et nos vies, c'est de les habiter poétiquement, ce qui signifie récuser l'anthropocentrisme et son égoïsme aveugle et inventer une commune présence qui substitue à l'obsession de la maîtrise et du pouvoir l'art du partage et de l'échange sensible. Oui, il suffit d'un poème pour faire entendre ce diapason et nous rappeler à l'ordre de la vie. Par exemple, ce haïku de Ryokan. Le voleur n'a oublié qu'une seule chose, la lune à la fenêtre. Jean-Pierre Siméon, voilà. Alors aujourd'hui, cette émission va être consacrée à Michel Écart-Elial, que nous avons en ligne. Michel, bonjour.
Bonjour à tous, à toi Christian.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Montpellier aujourd'hui.
Très loin.
Et demain, nous aurons le plaisir, Michel Écart-Elial, nous allons avoir le plaisir de te recevoir à Toulouse. À Toulouse, une ville qui t'est particulièrement chère, nous allons en parler. Toulouse, qui est la capitale de la poésie, en sorte, puisque c'est à Toulouse qu'il y a l'Académie des Jeux Floraux, qui est née, voici, sept siècles, dont depuis sept siècles, la plus vieille académie d'Europe siège donc à Toulouse. Actuellement, elle siège à l'hôtel d'Assesa. Et cette vieille académie, qui est né des sept troubadours qui avaient lancé le défi d'avoir un concours pour savoir quel était celui qui aurait le plus beau poème, qui dirait le plus beau poème, lequel poème serait récompensé par des fleurs, d'où le nom des Jeux Floraux, qui continuent toujours. Les Jeux Floraux, le 3 mai, organise toujours ce concours des fleurs où on remet des fleurs donc aux lauréats. Alors, Michel, demain à 18h, donc demain nous serons mercredi 15 janvier, à 18h, tu seras reçu dans le salon blanc de cette Académie des Jeux Floraux de l'hôtel d'Assesa pour nous parler de ce que tu as réalisé tout au long, quasiment maintenant, quand même, d'une vie. En ce qui concerne la création poétique et la création éditoriale. Alors, tu es bien entendu poète, tu es traducteur de la poésie hébraïque contemporaine, on te doit la traduction du poète israélien Yehuda Amichai, qui a été la grande voix de la poésie du XXe siècle, que tu as été un des premiers à faire vraiment connaître et vulgariser ici en France. Tu as traduit Dalia Ravikovic, Ronnie Somek et Agit Grossman, je suppose.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et d'autres que j'oublie puisque je n'ai pas la liste sous les yeux, mais dont tu vas nous parler. Donc, il y a chez toi deux volets, je dirais. Le volet d'une œuvre poétique personnelle, dont nous allons parler. Et cette œuvre poétique personnelle, elle a commencé ici, à Toulouse. Elle a commencé à Toulouse. Et donc, tu fais partie, maintenant, au moment où je te parle, en 2025, tu fais partie de ces personnages historiques de la littérature qui ont traversé notre ville. Il y en a beaucoup, dont toi, puisque en 1965, tu étais poète à Toulouse et que tu as commencé à publier donc tes premiers poèmes ici, dans la ville de Toulouse, lorsque tu étais au lycée Marcelin Berthelot à Toulouse. Voilà. Et tu as passé donc ces deux ans, 1965-1966, et l'année scolaire 1966-1967, donc, à œuvrer pour les publications donc de poétiques à Toulouse et pour la vie de la poésie à Toulouse. Tu es un des personnages donc qui, dans ces années-là, habiter poétiquement notre ville et fait partie donc de l'histoire de la poésie de Toulouse. Voilà, donc c'est assez émouvant. Depuis 1965, nous sommes en 2025, donc tu reviens, je dirais, sur les lieux, tu vas revenir sur les lieux de tes premières amours en ce qui concerne donc cette vocation de la poésie. Alors Michel, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu as créé ici, quand tu étais à Toulouse, le Pop Club Poésie. Il y avait les premières publications, une revue Florilège, puis une autre revue Crécelle. Et puis tu as poursuivi tes études à Paris. Et ensuite, tu as des études littéraires. Et ensuite, tu as émigré donc en Israël. Tu as fait le fameux Aliya en Israël. Je crois que c'était en 1971, c'est cela ?
C'est ça.
Voilà. Et en 1971, donc, tu rejoins Tel Aviv. Et là, tu vas continuer une carrière universitaire, donc des études et une carrière universitaire. Tu deviens un professeur de sémiotique, c'est ça ?
Sémiotique, c'est ça.
Sémiotique. Professeur de littérature comparée à l'université de Beersheba, dans le Negev. Voilà. Et tu mènes là donc une carrière. Et parallèlement à cette carrière d'universitaire, tu vas fonder les éditions Le Vent. Les éditions Le Vent, L-E-V-A-N-T. Que tu fondes, je ne me souviens plus quelle année.
88.
1988, donc à Tel Aviv. À Tel Aviv, où tu vas publier tous les poètes des trois rives de la Méditerranée.
Hein,
okay. Des trois rives de la Méditerranée. J'aurai le plaisir, moi, d'aller. Mais c'était avant, je crois que c'était avant 1988.
Ouais, ouais.
de venir et de voir à quel point le français et la poésie étaient vivaces et vivaces dans ce pays. Voilà. Et en 1988, donc, tu démarres une œuvre d'édition, une œuvre d'éditeur, que tu vas... Alors, les auteurs que tu publies, ce sera intéressant d'en faire un petit peu le recensement, ou un résumé de ce recensement, mais enfin, on voit vraiment que la diversité totale de ces auteurs. Tu vas publier aussi l'avant-garde de la poésie israélienne, avec David Avidan, par exemple. Et puis, tu vas aussi publier, heureusement, du Michel Eckart Elial. Et tu vas revenir ensuite en France, où tu vas continuer ces éditions Le Vent, depuis la ville de Montpellier, où tu résides actuellement. Et donc, ces éditions Le Vent, maintenant, sont toujours aussi vivaces. Tu vas nous parler des derniers livres publiés. Et ceci depuis la ville de Montpellier. Voilà. Alors, demain, à 18h, jeudi donc 15 janvier, eh bien, nous allons faire un peu le panégyrique de tout cela et nous allons écouter cette voix de Michel Eckart Elial, qui est une voix qui rassemble un peu donc les espaces méditerranéens. Et cette voix qui est partie d'ici, de notre ville, de Toulouse, hein, qui est aussi une ville méditerranéenne, puisque Toulouse est, à la fois son volet atlantique et son volet méditerranéen, mais son volet méditerranéen est effectivement excessivement présent. Voilà, Michel, quel est, devant ce bref rappel de ce que tu as réalisé, de ce que tu fais, de cette vocation de la poésie, quel est donc ton sentiment par rapport d'abord à tout ce passé quand même qu'il y a maintenant, qui est un peu vertigineux, de 1965 à 2025, hein, et de te retrouver demain dans le lieu en fait d'origine, donc de ta vocation de poète, d'auteur et d'éditeur.
Oui, Christian, tout ça est vrai. Enfin, il y a eu beaucoup d'années ont passé. On a parlé des siècles aussi, des siècles qui ont établi l'Académie des Jeux Floraux, prestigieuse académie, une des plus anciennes d'Europe. Hein. Et c'est un honneur, d'abord, je dois l'avouer, un honneur et puis beaucoup d'émotion que d'être reçu grâce à toi, grâce à tous les sociétaires dans cette cour d'amour, cette cour de poésie qui a célébré beaucoup toutes les belles choses de l'humanité, c'est-à-dire l'amour à travers les fleurs, puisqu'il s'agit de jeux floraux, des fleurs qui sont des symboles, hein, chacune d'elles, hein, d'une de ces dimensions, la dimension charnelle et spirituelle de l'homme, hein. Tout cela est un peu vertigineux, c'est vrai. En même temps, je voudrais partir quand même partir du présent. On vit un présent difficile, Christian. Un présent où on pourrait penser, pour faire écho en quelque sorte à Jean-Pierre Siméon, faire écho à ce qu'il disait, de l'objectif du devoir de rêver de la poésie, du devoir de faire de l'homme la plus belle des créatures, les plus belles des créatures. On ne peut quand même s'empêcher de regarder au bord de ces trois rives, hein, le flot tumultueux de cette Méditerranée qui nous parle aussi de guerre, de violence. Tout face tout ce contre lequel nous avons lutté, et nous avons de manière immodeste, nous avons pensé que la poésie pouvait être une arme de pacification, une arme d'avenir. Elle le reste. Nous souhaitons qu'elle le reste, nous espérons qu'elle le reste, et qu'il y aura des lendemains toujours qui démentiront ce qui vient de se passer, ce qui se passe sous nos yeux, dans la brutalité, la cruauté et l'inhumanité. Alors, pour revenir à Toulouse est, bien que je sois... Alors, j'aime pas tellement le mot migré ou immigré, c'est un mot qui est contesté, contestable. Je crois que nous sommes des voyageurs. Toulouse m'a donné le sens de l'humanité à travers la formation scolaire, à travers mes enfances passées dans cette belle région du Languedoc, de l'Occitanie. Et elle m'a donné également l'envie de porter le flambeau de cette fleur humaine, hein, au-delà du littoral languedocien, du littoral méditerranéen. Et c'est ainsi que j'ai voyagé vers Israël. Et je me rappelle d'un titre, Christian, que nous avions publié ensemble, hein. C'est Espace Sud, Toulouse-Tel Aviv. Et dans le texte d'introduction de ce petit volume où se rassemblaient des poètes toulousains et israéliens, je titrerai cette petite introduction Tel Aviv sur Garonne.
Tel Aviv sur
Garonne. C'est ainsi que je vois les choses. Tel Aviv qui est devenu aussi un de mes ancrages, hein, est lié à Toulouse par une indéfectible relation, un indéfectible amour. Et quand tu parles de mon activité j'ai une activité de quelqu'un qui écrit, qui porte, comme disait le poète Druze, Naïm Haridi, que nous avions publié, qui porte les mots, qui porte le poème, oui, je dirais presque à dos de chabon, eh bien, tout cela est logique, tout cela s'installe dans une cohérence parfaite. Nous essayons de bâtir, depuis le temps des troubadours, et même, je dirais, depuis les textes du Cantique des Cantiques, nous essayons de bâtir une filiation de l'espoir, une filiation d'une approche courtoise et d'une approche humaine et fraternelle de l'homme. Et c'est dans cette ligne-là que s'est installée mon activité. Alors, traducteur et poète, aujourd'hui je pense que ce soit très différent comme activité. Il s'agit d'intensités diverses, différentes. Quel est le poète qui ne traduit pas? Il ne traduit pas une langue qui est en lui, qui est dans ce qu'il pense de l'humanité, de cette langue. Peut-être qu'il n'est pas que celle des anges, mais celle des hommes qui veulent œuvrer pour leur prochain. Est-ce que nous, sur ce métier où le traducteur parfois semble disparaître sous le poète, est-ce qu'il ne réunit pas les rives parfois incertaines, mais pour lui certaines, d'un continent qui n'est jamais perdu, d'un continent qui est toujours à atteindre, qui est celui de la parole d'avenir, celle de la poésie, celle qui est loin des discours politiques, celle des discours politiciens, des discours acérés et qui si souvent, trop souvent, blessent l'homme. Je suis traducteur, je suis devenu traducteur pour porter le français ailleurs sur votre rive, pour porter l'hébreu vers notre rive ici, du côté du littoral franco-méditerranéen, et pour croiser, en quelque sorte, pour tisser, pour nouer quelque chose qui est irréfutable, quelque chose qui est qu'on ne peut pas casser, qui est incassable, qui est celui de nos racines. Alors quand je parle de racines, quand je pense aux racines, il ne s'agit pas de racines, les racines des frontières. Il s'agit des racines, tu parlais, Christian, au début de cette émission, tu citais, tu parlais de l'arbre. Oui, l'arbre. L'arbre est bien le symbole de notre poussée dans l'humain. Depuis les racines du ciel que nous portons toujours, malgré tout, au ciel de nos aspirations.
Alors, Michel, dans ce que tu dis, je vais reprendre sur ton recueil « La poésie n'est pas une métaphore ». Et on recueille avec Roni Somek, donc un poète israélien. Il y a cette citation de Alain Suyed: la poésie est le plus court chemin de l'homme au monde. Voilà. Alors c'est une affirmation sans cesse, cette phrase d'Alain Suyed. Il faut que la poésie soit le plus court chemin de l'homme au monde.
Oui, c'est un rapport de peau à peau, c'est un rapport nu, qui creuse dans la moelle, oui, dans la moelle humaine, l'essence même de sa raison d'être au monde.
Oui.
Voilà ce que Alain Suyed voulait dire, hein, dans l'évidence, dans la simplicité et l'économie simple de son propos. Il y a tout de même le discours de la philosophie, il y a beaucoup de discours qui nous enveloppent, hein, qui nous portent, hein, qui sont aussi essentiels, mais il n'y a pas de vérité mieux dite, hein, et mieux perçue par l'émotion et par tous les fibres de notre être au monde que celui de la poésie.
Oui, habité par le monde, la poésie n'est pas une métaphore filée dans l'antre des dieux et des astres, dis-tu. La poésie ne dit rien que ce qui pousse en elle, comme l'arbre de vie, ce que tu viens de dire, de ses racines qui ont la nostalgie du ciel et la force tellurique des volcans en gésine sous la langue. Voilà, c'est ce que tu dis dans cet avant-propos, oui, donc, de ce magnifique livre. La poésie n'est pas une métaphore, avec des poèmes et des dessins, aux éditions Le Vent.
Le Vent.
Le Vent, voilà, avec Romy Somek.
Alors, j'ai trouvé en Romy Somek, ce poète israélien qui a une figure, une posture nationale aujourd'hui, c'est le poète, bon, qui est de notre génération. Hein,
oui, il est en 1951.
Le poète qui représente le mieux, disons, toute la complexité, la diversité et en même temps la vérité de la poésie, qu'elle peut s'exprimer dans ce champ de violence aujourd'hui, qu'est la Palestine ou Israël.
Oui. Tu vas peut-être nous lire quelques passages donc de ce recueil éventuellement, Michel.
Oui, bien sûr. Donc c'est un livre que nous avons composé à deux, donc à quatre mains. Il est préfacé par un ami qui nous est cher, qui est James Sacré, Christian.
Oui. Oui, j'aime ça.
Qui l'introduit en disant que c'est un dialogue, un dialogue à partir de deux sensibilités, de styles d'écrit très différents, mais qui se rejoignent, par le désir d'être sur le chemin, sur ce chemin dont on parle Suède, hein, ce chemin qui va vers l'homme de la manière la plus directe et la plus intense. Alors je pourrais prendre le poème sur la métaphore. Alors dans le titre est presque paradoxal, hein. Bien sûr que la poésie est faite de métaphores, hein. Mais ce qu'on a voulu dire, c'est que la poésie, précisément, est très loin de ce qu'on peut penser être une stylistique, hein. Oui, une stylistique, une image, une représentation, c'est la manière la plus directe, la plus difficile aussi, d'accéder au cœur des choses. Un texte, donc. Si la métaphore était un œil à fleurs pour nous libérer de la poésie, le cristal de l'être, un navire ayant largué les amarres pour conserver le souvenir de la mer, le ciel des pensées, oublierait l'arbre des prés pour être une lettre qui ne flétrit pas sous la pesanteur. Alors, j'oserais dire quelques mots qui vont nous faire aller plus loin dans le cours de cet entretien. Dire ce qu'on peut entendre par la lettre, hein, ici. Et là, je pense à l'hébreu, hein. Alors, il faut dire que le rapport, ça c'est une parenthèse qui rejoint tes remarques précédentes, hein, le traducteur et poète, hein. Oui, il y a quelque chose qui fait que le traducteur atteint, pour traduire, pour amarrer, ancrer la langue originale à l'autre rive, hein, il fait un travail de creusement. Il creuse un espèce de canal, comme un canal dentaire, oui, un canal physique, hein, qui le rapproche le plus de la matière, de l'étincelle même du feu, si je puis oser l'image. La lettre, en hébreu, c'est la matière même, comme dans toute langue, hein, de mots, de la manière dont on compose les mots. Mais il faut ici peut-être jeter une passerelle sur une tradition qui est celle de l'hébreu, qui est la Kabbale, hein, celle de la Kabbale, où les kabbalistes, quand ils pensent à la manière dont le monde a été créé, il pense que le Dieu créateur ayant créé le monde, quand il s'est retiré du monde pour laisser la place à l'homme sur la terre, il a pris des mots pour que l'homme reconstitue un langage qui soit le sien, à partir de l'être, à partir d'étincelles, d'être qui lui soit propre. Donc il y a un rapport performant, de performation, de création entre la lettre et le mot. La lettre n'est pas un fragile fragment, oui, de quelque chose qui serait constitué définitivement. C'est quelque chose qui ouvre à l'être, c'est-à-dire à l'existence. Donc c'est ainsi qu'il faut comprendre ce que je disais dans ce texte sur la métaphore. Un autre texte, peut-être.
Oui, oui.
Qui parle de l'arbre. Alors, je parlais de la lettre dans la tradition de la Kabbale, dans des commentaires dont du livre de la Genèse. Il y a bien sûr beaucoup d'éléments de réflexion dans cette tradition pour penser le mot, pour penser le fonctionnement du mot, la dynamique du mot et la dynamique de la parole. J'en veux pour preuve le premier verset de la Bible, qu'on a traduit, c'est toute la tradition des traducteurs qui a traduit ainsi. Au début, il y eut le Verbe. En fait, le texte original d'origine, c'est « Au début, il y a la lumière ». C'est à partir de la lumière que se forme la parole. Et je crois que ça ouvre le champ à ce que nous pensons, Christian. La parole est lumière. Et c'est pour ça qu'elle ne peut être bâillonnée. Elle ne peut s'éteindre. Il en reste toujours des étincelles qui se rallument, qui se raniment. Et c'est ainsi qu'il faut prendre aussi, envisager l'histoire. Il y a parfois des ténèbres, mais il y a heureusement pour notre humanité, il y a des étincelles, des brins de lumière qui toujours sont rallumés. Ne serait-ce que par les poètes. Et c'est peut-être la fonction de la poésie, une des fonctions, pas magiques, mais presque suprême de la poésie, ultime de la poésie, que par tant de détresse, par tant de tunnels, de détresse, d'obscurité, de rallumer toujours et de garder pérenne cette lumière qui ne cesse de brûler. Alors, je dis ce texte, créer ces paroles, pour que le fruit revienne à l'arbre, à sa germination étoilée, au début de la lumière, qui invente la graine et la voix, sous les corolles du vide. Tout fut restreint au mystère, de l'arbre premier, nouant la terre au jour, et le ciel a un signe familier, être au bout du monde et si loin de l'étoile. De l'autre côté du sillon, où la terre absente bourgeonne de nos paroles brûlées. Voilà donc la lumière, la façon dont la lumière reste toujours intacte et intègre dans sa vocation d'être rapatrié par le chant, par la voix du poète, et de devenir un flambeau pour ouvrir le chemin de demain, le chemin de l'espoir.
Et c'est Jean-Marie Le Clézio qui disait « Si la poésie dit quelque chose à l'homme, quelque chose que ne lui dise pas le roman ni la philosophie, ce doit être ceci, que tout soit nouveau. » Donc il y a dans le poème aussi, tu disais, cette lumière qui va sourdre des ténèbres, qui finira toujours par sourdre des ténèbres, mais c'est aussi une espèce de renouvellement permanent du monde aussi. La vocation du poète, renouveler ce monde, que tout soit nouveau. Hein. Tu le dis d'ailleurs plus loin, tu dis « Le monde pousse comme un arbre clair, sous le rouge hymne de ta langue, un souffle fait naufrage, un monde se perd, sur une pointe d'étincelle, est-il l'âme ou le corps de l'exil, blotti dans la braise d'un baiser d'étoile, au fond du poème, avec les mains brûlées, de l'éclair et du cristal. »
Oui, alors que tout semble pour nous perdu, il ne faut pas désespérer.
Voilà, c'est
il ne faut pas désespérer
à l'espérance.
Tant que le poète est là et demeure dans sa vocation et sa solitude, il peut rallumer l'étoile.
C'est Giono qui dit « Je suis seulement l'ouvreur de fenêtres, le vent entrera après tout seul ». C'est exactement ça. C'est-à-dire que le poète, il va ouvrir les fenêtres, il va ouvrir la vision des hommes, et après, le vent entrera tout seul, c'est-à-dire que les hommes verront par eux-mêmes tout seuls. Mais il faut quand même, et c'est la vocation, je pense, que tu viens d'expliquer, là, du poète, il faut que quelqu'un ouvre les fenêtres. Parce que les fenêtres, elles ont tendance vraiment à être fermé, hein, pour que rentre cette lumière, il faut, c'est la vocation du poète, de toujours, toujours ouvrir les fenêtres, voilà. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu as fait toi depuis toujours, ouvrir les fenêtres, faire entrer la lumière, même dans les temps les plus obscurs. Et nous vivons un temps, je crois actuellement quand même très obscur. Eh bien, on va ouvrir le maximum de fenêtres, et on va faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'ouverture, c'est-à-dire de rencontres, pour que jaillissent ces étincelles dont tu parles et qui vont ranimer, évidemment, l'espérance.
C'est ce que nous avons essayé de faire dans la revue Le Vent et les publications que nous publions, que nous sortons, oui. Nous éditons depuis 88, ça, de réunir, malgré les difficultés qui ne sont pas sans nombre, qui ne sont pas peu nombreuses, de réunir les graines de la cohabitation entre des existences et des phénomènes qui semblent très distants les uns des autres. Poètes, écrivains, plasticiens nous ont accompagnés tout au long de ce projet, si bien que Le Vent est devenu un pôle de réflexion, d'initiative culturelle, avec des colloques, des rencontres, qui ont accompagné les 12 livraisons de la revue, puisque la revue s'est endormi dans le sommeil, je sais, provisoire, en 2014, hein, mais prolongé par
les éditions,
les recueils que nous
par
sortons.
Par les éditions, voilà. Par les recueils, par les livres.
Oui. Alors, un dialogue de création et de paix, car les deux vont ensemble, hein, il me semble, hein, où on pouvait retrouver les voies vives de la Méditerranée, comme celle de Darwish, Adonis, oui. Les poètes Sétier, Sarah Sétier. Et je l'évoquerai demain, et c'est toujours cette émotion qui me ramène à notre belle région d'Occitanie, Max Rouquet, hein,
oui.
Max-Philippe de Lavouette. Voilà des gens qui ont contribué à ces dialogues, hein. Quelle n'a pas été mon émotion de rencontrer Rouquet à Montpellier, Max Rouquet, hein, et que lui me parle de la Galilée, Max Rouquet me oui. parlant de la Galilée, qui a, comme d'autres lieux de la tradition orientale, arabe notamment, ont nourri la poésie occitane. Hein. J'aimerais parler, oui, demain, faire mention du moins de cette filiation qu'il y a entre la poésie judéo-espagnole, judéo-arabe d'Andalousie et les troubadours. Tu parlais des siècles, Christian, de tous ces siècles qui cimentent la vivacité de la Camélie de Fleurot et de cette tradition-là. Elle a toujours existé, elle vient de très loin. Elle vient du Cantique des Cantiques, hein. Elle s'est poursuivie malgré les guerres. Il y a eu, j'ai entendu parler une fois, des chemins de pâture, hein, des chemins où les bergers pouvaient passer en paix malgré les guerres, hein, qui pouvaient avoir lieu dans cette région, dans notre région. Il y a cette tradition-là, cette tradition de chants, d'amour et de paix qui existent, hein, et c'est celle que précisément, peut-être s'il nous reste,
oui,
on parlerait d'une vocation ultime de la poésie, c'est celle-là, humaine de la poésie, oui, c'est à la poésie de rallumer cet espoir que cette tradition continue et se perpétue.
Il y a en Occitanie ce qu'on appelle d'abord le parage et la convivencia, qui sont effectivement une incitation, une vocation, bien sûr, à l'accueil de l'autre et à reconnaître surtout l'autre comme notre soi-même. C'est toute la définition de la convivencia, qui est une notion donc très particulièrement occitane, catalane un peu, mais qui effectivement vient d'une tradition plus ancienne, bien sûr, une tradition que tu as rappelée.
Alors, je voudrais, si tu me permets, dire un texte. Alors, un de mes textes a été publié en livre d'artiste par André Jolivet, que tout le monde connaît, oui, qui fait des livres d'artiste avec des poètes, hein, des rives de la Méditerranée notamment. Il a fait un livre sur Toulouse. Hein.
Oui.
Et le livre que je fais avec lui, qui s'appelle « La ville que tu portes n'a pas de terre », hein, et la ville, hein, la ville, ça peut être Toulouse, ça peut être Jérusalem. Si c'est de ville-là que le poète, hein, porte, sans lui donner le nom, parce qu'elle a le nom de l'humanité. Jérusalem elle-même, il faut ici revenir à l'hébreu, Jérusalem est duel. C'est la Jérusalem d'ici, la Jérusalem de là, de là-bas. Donc c'est une Jérusalem qui porte, hein, qui porte le prochain sur son dos, qui n'a pas de nom parce que son nom c'est l'un et l'universel. Alors, je voudrais lire, si tu permets, le texte, hein, que André Jolivet a publié dans son livre d'artiste.
On t'écoute, Michel.
Alors ce texte-là, je l'ai dédié au poète qui accompagne mon parcours parce qu'il représente tout ce dont on parle, Yehuda Amichai.
Oui. Oui.
Et l'exergue, l'incipit que je lui ai dessiné, c'était au fond, c'était celui d'un autre poète qui est à découvrir, si on ne le connaît pas, c'est José Ángel Valente.
Valente, oui.
Qui est un poète magnifique, hein, oui, poète espagnol, qui porte les traditions de notre latinité et de nos racines, oui, méditerranéennes, pour que tu dures et te perpétues. La ville que tu portes, hein, n'a pas de terre. Écrit Valente. Et voilà mon poème. Même de l'histoire surgit au loin des rêves un seul nom pour tous ces hommes éveillés. D'autres cieux sans nom, dans ce vase de lumière et de pierre, elles sont ce qu'ils deviennent pour qui les appelle, dans la buée des ciels, reconnaître sa voix comme celle d'un oiseau de pierre et de flamme, pour qu'il en renaisse toujours dans la chute des tours quelque chose du monde, de la durable présence à ta rencontre. Je reconnais l'invisible terre que tu portes dans les temps contraires pour aimer qu'elle attache fidèle, consacre l'envol de tes ailes et de tes portes scellées dans la vallée des hommes. Voilà, bon, un texte qui était écrit pour Jérusalem et qui s'applique. Hein. Et je nomme pas Jérusalem parce que Jérusalem, nous la portons tous. Nous la portons tous de manière invisible quand nous allons sur ce chemin vers le chemin des hommes. Et comme tu dis, tu parlais des fenêtres, hein, tout à l'heure. Oui, les portes et les fenêtres, hein, voilà ce qui scelle un petit peu les séquences de l'histoire, hein, et au poète de savoir, un peu comme dans la maçonnerie, la franc-maçonnerie, au fond de les garder, d'être gardien. Il y a le gardien de l'heure, des horloges. Il y a aussi le gardien des fenêtres et des portes. Et le poète n'est-il pas un genre de gardien des fenêtres et des portes, pour que les portes s'ouvrent, que les fenêtres s'ouvrent, et que le large entre et serre l'étroit de plus en plus fort pour qu'ils disparaissent. Le monde est large, le monde est immense, l'homme est un et universel.
Belle parole, Michel. On voudrait maintenant écouter un petit peu de tes poèmes, parce que nous allons être vite rattrapés par le temps.
Oui, alors peut-être, Christian, nous quittons le plomb des choses publiées. Je pourrais lire quelques textes qui sont à paraître.
Hein. Oui, avec grand plaisir.
Voilà. Alors là aussi, j'écris à partir d'un incipit de Rilke, qui est un des poètes que j'aime beaucoup. Toujours plus proche, derrière les astres du levant, l'ange attend que je me décante. Rilke. Ton rêve est une main, est une caresse, je le viens sans souvenir. Le corps de ton corps, c'est le corps de l'invisible, scellé à la voix qui te fait signe. Aurais-je fleuri dans tes mains, sans tes mains, pour prendre la forme de l'univers, dans la clairière de ton visage, c'est l'ange qui se décante dans les vagues du cœur. Un autre texte. Il goûte tout l'arbre dans la graine. Tout songe est poussière des voyages, l'herbe tissée de la vapeur du monde, pour être ce grand visage clair et penché vers le ciel, de la tente qui nous lie, aux lèvres de chair et au monde nouveau. Simple, éternel, voici des oiseaux du voyage qui sèment les graines, de l'inchangé et du pur, entre la rose et l'or, aussi longtemps que les mots sont des fleurs d'amour. L'un peut lire dans les yeux de l'autre la profondeur de l'eau. Notre texte. S'enracinant dans mon amour, chaque jour est l'arbre du mystère. Il me devance et pose ses paniers sur la terre nue, mûres et grenades, dans le jardin du jour, et que l'amour soit cet amour, et toi, le corps du soleil. Un autre dialogue qui fait partie du recueil qui était le cri à l'étoile. Hein. Oui. Alors, là aussi, j'écris sous l'inspiration de un grand poète argentin, Roberto Juarez.
Oui.
Tout vient vers nous, nous n'allons pas vers rien. Vers où aller dans la laine de l'ange, où s'achèvent les langues, les mots muets en capture du monde, et le pur exhalé des membres séparés, dans le monde reconstruit des semences et des rencontres. Par la nuque de la vie, je te pourrai comme un arbre, et les collines enflammées, comme l'arbre du Judée, posent ses graines noires et ses fleurs roses. Les noms portent sur les choses la lumière de l'espérance, et je te dirai l'amour où je vais. Quelques-uns. Encore un ?
Oui, en suivant. Dernier. Toujours sur Rilke, je vois. Avec les mots de neige et de cendre.
Oui. Errer ne se peut que dans le chemin du monde. Le mystère est là. Où est le cœur ? À ton champ et la branche qui glisse sous les racines de ma maison. L'oiseau traverse son champ, de la plus haute tour, je t'appelle derrière ta course. Mon amour et mon retour tendu vers toi, d'un région de l'être s'égarer, au milieu de fontaines et de braises, mon âme accepte le mystère de l'errance, sans éteindre la soif de marcher dans la lumière des solitudes, jusqu'où aller sur la faille de l'ombre pour que ne cesse jamais, en Éden ni dans le champ, l'ouverture à la parole. Autre peut-être dernier texte de Rilke, sur à partir de Rilke, la citation de Rilke est tirée de Verger, l'arbre dans le paysage est l'axe où le rêveur passe le plus normalement du terrestre à l'aérien. Ailleurs à peine est donné derrière l'abîme, toujours prochain, effacer la feuille et séparer la peau d'invisibles frontières, ajouter que vivre n'est que l'ombre sur la route, une balise de sites visités sous nos pas. Voilà les textes que je pouvais lire.
Alors, ce que tu viens de lire, c'est extrait de Crier à l'étoile.
C'est, effectivement, j'étais passé à Crier sur l'étoile. Oui.
Crier à l'étoile, donc, l'étoile Michel Écart et Léal, donc aux éditions de L'Aigrette. De L'Aigrette, hein. Alors, où il y a des citations de poètes et un poème en réponse.
Voilà, c'est une sorte de réponse, oui, au sens ancien,
oui,
de la réponse.
Oui, hein. Oui. Alors, donc, un très beau livre.
Voilà, je prépare un recueil à sortir, un prochain recueil qui, précisément, nous revient toujours à l'arbre, je crois.
Oui.
De l'arbre du ciel aux racines du monde.
Ce sera le titre de ce recueil ?
Oui. De l'arbre du ciel aux racines du monde.
Bien. Eh bien, Michel, nous aurons le plaisir d'en reparler, donc, de ce recueil qui sera paru.
Avec plaisir, Christian.
Ainsi s'achève, nous sommes rattrapés par le temps, voilà. Ainsi s'achève cette émission.
Avec Michel, la plus grande joie, je retrouve Toulouse.
Voilà. Donc, Michel Écart, Elial, vous pourrez le retrouver donc sur le site lespoètes.site. Également, vous pouvez consulter le site des éditions Levant, L-E-V-A-N-T. Et puis, on va finir, si tu le veux bien, Michel, sur cette phrase qui est extraite d'un entretien qu'a eu Thierry Pierre Clément. C'est un poète qui a fait un très bel essai sur la poésie qui s'appelle Poésie fenêtre ouverte, justement, aux éditions Sansa, et qui a eu un entretien avec Isabelle Lévesque, une poétesse que l'on a reçue ici, que l'on connaît, qui est une de nos amies. Et c'est Jean-Marc Sourdillon qui a eu cet entretien avec elle et qui dit « La poésie, comme langue de l'espérance, est la seule réponse sérieuse à l'intérieur du désespoir ». Voilà, nous allons terminer sur cette phrase qui résume bien tout ce que tu viens de nous dire, Michel. On te remercie infiniment et à très bientôt.
À très bientôt, amis de Toulouse.